7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les vengeances sexuelles sur Internet. Des images intimes, très intimes, qui circulent sur le web, postées souvent par un garçon éconduit par sa petite amie, ou des chantages à la vidéo très compromettantes. Et ce sont parfois en quelques heures des réputations détruites par la viralité des réseaux sociaux. Ce sont surtout les femmes qui sont victimes de ce que les anglo-saxons appellent désormais le « revenge porn », la honte poussant parfois au suicide. Alors que disent ces pratiques de porno vengeur sur nos sociétés et les relations hommes-femmes actuelles? Comment lutter contre ce nouveau type de harcèlement sur Internet? Si vous vous sentez concerné par le sujet, les voisins et les voisines, vos questions à nos invités spécialistes de ces problèmes au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, autour de la table dans le studio de 7 milliards de voisins. Divina Frau Mex, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue des médias à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et en particulier spécialiste des médias anglophones. Maître Delphine Meillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en matière d'atteinte à la vie privée et aux droits de la presse, et vous avez de plus en plus de clientes qui viennent vous consulter pour des problèmes de revenge porn.
Oui, depuis un certain nombre d'années, oui.
On va en parler avec vous. Kessia, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en droit. Bonjour Kessia.
Bonjour.
Vous êtes membre du collectif, un collectif tout récemment créé.
Trois semaines.
Voilà, trois semaines d'existence pour ce collectif féministe contre le cyberharcèlement ou hashtag féminism cyberbully.
Oui, voilà.
Vous souhaitez rester anonyme, c'est tout dire, je pense, de l'ambiance qui règne en ce moment sur la toile, quand même. Nous serons... Oui, mais vous allez nous en parler. Nous serons également en ligne avec Jérémy Mani qui gère une entreprise française de modération des espaces participatifs sur Internet et qui voit beaucoup de choses évidemment sur les pages qu'il modère. Mais tout de suite, pour comprendre de quoi nous parlons, écoutez le témoignage de cette jeune femme. Leïla, 25 ans, habite la région lyonnaise. Elle est une victime dévastée.
Au début, tout se passait bien. Il était très poli. On est sortis ensemble un an et demi. Et pendant ces un an et demi, il m'a fait voir de toutes les couleurs. Il m'a trompé plusieurs fois, je lui ai pardonné plusieurs fois, jusqu'au jour où j'en ai eu marre, en fait, et j'ai décidé de partir. J'ai senti qu'il était haineux, en fait. Vous savez, les hommes qui ne supportent pas quand on leur dit non. Et à partir de là, j'ai bloqué son numéro. J'ai vécu ma vie et jusqu'en septembre 2015, où ces fameuses vidéos ont apparu sur Internet. Deux vidéos de moi. Donc ces vidéos de moi ont été tournées en 2013. Ce malade, il a gardé ces vidéos jusqu'à aujourd'hui, quoi. Même après la rupture, il a gardé les vidéos. Ce qui montre son intention de nuire, en fait. Et comme sur les vidéos, on ne voit pas mon visage parce que je suis de dos, il m'a marqué sur les vidéos, donc il a mis mon arrobas pour que tout le monde puisse venir consulter mon profil. Sur la première, je suis de dos. Si je me souviens bien, je pense que je sortais de la salle de bain à ce moment-là. Bref, j'ai enlevé ma serviette, j'étais de dos et je dansais et je parlais, en fait. Et la deuxième, c'était pareil, sauf que sur la deuxième vidéo, j'étais allongée, par contre.
Et vous êtes nue sur les deux
vidéos? Et je suis nue sur les deux vidéos. J'avais l'impression de rêver, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça peut pas m'arriver à moi, enfin, c'est pas possible. En l'espace de même pas 5 minutes, il y avait tellement de retweets. Ça allait trop vite. La vidéo, elle a été partagée plus de 300 fois. Je savais pas quoi faire, j'étais tétanisée. J'ai même pas pensé à tout de suite couper mon compte, en fait. Et c'était un torrent d'insultes. Enfin, j'ai reçu je sais pas combien de demandes d'ajout sur Twitter. Du coup, tous les mecs voulaient forcément m'ajouter parce que voilà, tout le monde a vu mon derrière. Enfin, c'était... Ou alors, il y en avait, c'était « Ah, je la baiserais bien ou... ». Mais la plupart, c'était vraiment « Elle est dégueulasse, elle dégoûte, regardez ce qu'elle fait. » Voilà, c'est toujours les noirs qui font des trucs comme ça. « Ah, ça doit être une malienne, celle-là. Elle a même pas honte. Regardez-la, elle est dégueulasse avec son cul tout noir. Mais elle est tellement noire qu'on voit rien sur la vidéo, mais on voit même pas son cul, elle est toute noire. Ah, elle doit avoir Ebola, celle-là. » Après, les filles, c'était encore pire que les garçons, en fait. « Regardez-moi ça, elle a même pas de cul. Ah, 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 j'ai plus de fesses qu'elle. » Il y en a un surtout qui m'a marqué, d'une fille qui me disait « Bah, ta mère, elle serait fière de toi, tu feras vraiment rien de ta vie. Ça paye pas de faire la pute. » Ça les rassure de voir ça, de se dire que « Ah bah, il y a pire que moi, en fait. » Ça a pas été que sur Twitter. Après, ça a été « J'ai croisé mon petit frère. » J'ai compris qu'il avait vu, en fait. Tu n'arrives même pas à parler pendant un moment parce qu'il était trop gêné. Et puis, tous ses potes l'appelaient pour dire, mais c'est quoi ce délire, mais regarde, mais ta sœur et tout, etc. Et je me sentais trop mal à l'aise parce que, à la limite, moi, enfin, si j'avais été toute seule, je m'en fiche, mais c'est le mal que ça a pu causer à mon frère ou même aux gens qui m'aiment, en fait. Quand j'ai vu les vidéos, j'ai regardé ma fenêtre et je me suis dit, mais j'ai envie de sauter. À ce moment-là, j'avais vraiment envie de mourir, en fait. Je me suis dit, je vais pas supporter la honte, en fait. Parce que j'y pense sans arrêt et je me dis, c'est vrai, ils ont raison, je suis une pute, pourquoi j'ai fait ça? Enfin, on n'est pas considérés comme des victimes. En fait, on est considérés limite comme des coupables. En gros, on vous dit, ouais, c'est ta faute, t'avais qu'à pas te laisser filmer. Les gens le disent et vous finissez par le penser parce que vous le voyez tellement et je suis passée de la fille que personne ne connaît à tout le monde me connaît, mais tout le monde connaît comme elle et il a la pute, quoi. En fait, je me suis dit, mais imagine, ça arrive aux oreilles de ton père ou de ta mère. Heureusement qu'ils ne le savent toujours pas, et j'espère qu'ils ne le sauront jamais, d'ailleurs. Et puis, heureusement que mes copines ont été là, elles m'ont beaucoup soutenue, parce que pendant environ 2 semaines, je voulais plus sortir de chez moi. J'arrivais plus à manger, j'arrivais plus à dormir, et jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à dormir. Je me suis carrément sentie violée, en fait. On a violé mon intimité, on m'a... Je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction de me raser la tête complètement. Et ça m'a fait du bien, dans le sens où j'avais l'impression d'être sale. J'ai voulu tout recommencer à zéro, alors j'ai rasé ma tête. Pourtant, j'aimais bien mes cheveux, mais j'ai tout enlevé. Quelques jours après, c'était le tour d'une autre fille de se faire afficher, comme ils disent. Après, le tour d'une autre, et encore une autre, et encore une autre. En fait, ça s'arrête jamais. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça détruit la vie des gens, parce que pour eux, c'est pour rigoler. Mais c'est pas drôle, en fait. Personnellement, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, entre quatre murs, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment rester maître du jeu. Ça n'a pas à apparaître sur Internet, en fait. Si vous voulez vous filmer, les filles, c'est toujours avec votre téléphone. Pas laisser les garçons vous prendre en photo ou quoi que ce soit. Il faut faire très attention.
Voilà, un témoignage qui fait vraiment penser à un viol collectif, Divina Fraumex.
Tout à fait. Je crois qu'il y a deux éléments très importants qui apparaissent, hein, pour essayer de comprendre ce phénomène. Il y a déjà ce que ça fait au niveau médiatique, et puis après les effets, hein, pour les filles comme pour les garçons, et c'est des effets très différenciés. Au niveau média, on voit bien, hein, et elle le dit très bien, il y a un brouillage qui est établi dans l'esprit des gens, hein, un brouillage entre ce que c'est que l'érotisme. Hein. Au début, c'est l'acte qu'on fait en confiance avec la personne qu'on aime, hein, et puis ça devient du porno.
Sachant que là, il
ne
s'agit pas d'un acte sexuel. Hein,
voilà,
et la violence, en fait, vient des commentaires eux-mêmes.
Tout à fait,
et
oui.
Pas des images.
Oui, mais il y a les deux. Enfin, ouais. c'est. Mais il y a donc au début, là, l'initiative, hein, ce qui cause la chose, hein, c'est ce brouillage entre l'érotisme et le pornographique, qui très vite vire à un brouillage entre le pornographique et la prostitution. Hein, elle l'a bien dit. Voire un troisième niveau, le porno et le viol, hein, qui évidemment sont dans la vie réelle, le pas très loin l'un de l'autre. Hein. Tout ça, évidemment, ce sont des formes de contrôle, hein, de la femme, oui. Par l'homme. Hein. Mais vraiment, on voit bien ça. Alors, au niveau des sociologiques, ce qu'on sait par rapport à ce genre de pornographie de la vengeance, hein, c'est que c'est 90% des femmes qui sont victimes, même si elles sont pas traitées comme telles, et c'est l'inverse au niveau de la consommation, c'est surtout des hommes. Pourquoi ? Alors, du côté de la victime, on voit bien les effets, dépression. Vouloir disparaître, donc un très très haut niveau de stress, ça concerne la plupart des femmes à qui ça arrive, hein. Donc c'est énorme, il y en a des recherches qui sont faites là-dessus, parce qu'évidemment ce qui n'est pas précisé là, mais elle le dit juste au début, c'est que c'est pas simplement les images, on met aussi l'adresse, on met aussi le compte Twitter, Facebook ou autre,
hein. Donc, vrai lynchage,
ça, hein. Ça entraîne, voilà, c'est du cyber lynchage, c'est même plus du harcèlement, hein. Donc voilà, donc il y a environ 50% des gens dont on donne le compte qui sont utilisés. Du côté des garçons, j'insiste, du côté des garçons, parce que ça se nourrit déjà d'années de cyberharcèlement en ligne et autres, hein. Plusieurs choses. Ça accroît bien sûr le voyeurisme et le sadisme. Ça amplifie la traditionnalisation. C'est-à-dire que ça revient, ça repolarise les rôles sexuels. La femme, c'est la pute, c'est elle la salope, etc., etc. Et vous avez vu qu'en plus, ici, il y a des relents de racisme. Donc, ça fait ressurgir, si vous voulez, toute une série de problèmes que l'on croyait résolus. Hein. Donc, la traditionnalisation, c'est incroyable. L'accélération, on voit bien, c'est viral, c'est compulsif. Hein, et donc ça joue sur ces éléments-là chez les garçons, c'est l'hyperstimulation sexuelle que l'on fait dans toute la pornographie, et on le revoit ici, je ferai court pour vous dire, le reste c'est aussi la précarisation, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, hein, et il y a cette espèce de boule de neige hein, qui est infernale. Donc je vous en parlerai ensuite de comment essayer de résoudre ça du côté de l'éducation. Ouais.
Kessia, voilà. Un mot de réaction ?
Le témoignage est très révélateur de la culture du viol dans laquelle on vit en fait. Les femmes sont considérées comme ayant un rôle actif dans les violences dont elles sont victimes
et ça une responsabilité.
Oui, hein, voilà, on responsabilise les victimes et on justifie les agresseurs.
Elles l'ont bien cherché.
Voilà, elles l'ont cherché.
Maître Delphine Meillet, vous en tant qu'avocat au barreau de Paris, que faire immédiatement lorsque l'on est victime sur internet de ce type de vengeance ?
Alors oui, la première chose à faire, effectivement, c'est un signalement sur le site. Il faut aller regarder dans les conditions d'utilisation du site et signaler, c'est-à-dire utiliser ses propres moyens, donc signaler le contenu illicite, les photos litigieuses, les vidéos litigieuses. Vous pouvez également demander à celui qui a diffusé les images en question de les retirer, ce qu'il peut faire dans certaines situations. Et puis vous avez aussi la possibilité,
sachant que ça va jamais assez vite, hein, tout ça.
Ça va jamais assez vite
par rapport à la rapidité de l'enchaînement des transmissions des photos et des commentaires.
À minima 24 heures à 48 heures. Et là, ça va très très vite quand ça ne prend que 24 heures à 48 heures. Vous avez également la possibilité de mettre en demeure votre hébergeur, de supprimer les propos illicites. Mais il arrive que, malgré tous ces moyens mis en œuvre, ça ne fonctionne pas. Donc vous avez la voie judiciaire. Et la voie judiciaire, la plus rapide, au civil, c'est le référé, c'est l'extrême urgence. On va voir le juge civil.
Concrètement, il vous arrive ça, on se rend dans un commissariat de police ?
Non, commissariat de police, ça c'est pour déposer une plainte au pénal. Et engager des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur. Donc ça n'empêche pas d'engager également une procédure au civil et de saisir le juge de l'urgence, le juge du référé, afin de pouvoir supprimer les images. Le problème est que les sites, parfois, sont des sites extrêmement connus avec une adresse qui ont pignon sur rue, parfois non. Donc le problème, c'est l'exécution. Une fois que vous avez une décision dans la main qui supprime obligeant l'hébergeur à supprimer les contenus illicites, il faut l'exécuter. Et la difficulté parfois se situe là, et notamment concernant les sites à l'étranger.
Que prévoit la loi actuelle dans un pays comme la France comme sanction pour une affaire de ce type, par exemple ?
Alors vous avez
donc un petit ami qui souhaite se venger.
Vous avez deux types de sanctions. Vous avez les sanctions civiles, donc qui sont des sanctions réparatrices. Lorsqu'on arrive à supprimer les contenus illicites, on demande des dommages et intérêts. Ça, c'est une chose. Et vous avez également des sanctions pénales. La loi actuelle prévoit 1 an de prison et 45 000 euros d'amende, sans parler des dommages et intérêts, et je parle bien au pénal. Voilà, ça c'est ce que prévoit la loi. Mais aujourd'hui est débattu à l'Assemblée nationale, enfin depuis quelques jours, un amendement qui prévoit...
Dans le cadre de la loi numérique. Hein,
exactement. Ouais. Qui prévoit, si vous voulez, une infraction autonome, ce qui n'était pas le cas, pour se caler sur les législations européennes et les législations et la législation américaine dans différents États.
Oui, mais encore.
Le revenge porn est devenu une infraction autonome et en France, heureusement, on arrive à créer cette infraction aujourd'hui.
Qui augmenterait un petit peu la peine d'emprisonnement.
Alors, la question est surtout de clarifier la loi actuelle et notamment la question du consentement. Quand il n'y a pas de consentement à diffuser, il s'agit d'une infraction et c'est absolument automatique. Mais et la question du lieu où ont été captées ces images également.
Dans les circonstances aggravantes de cet amendement, on ne retrouve pas la situation de couple en fait. Donc être en couple avec son agresseur ou avant ou après n'aggrave aucunement les peines, ce qui aurait pu être...
Voilà, vous, c'est ce que vous auriez souhaité en tant que collectif
de
jeunes femmes.
Oui, notamment sur ce qui est le revenge porn. Ouais. Mais aussi, l'utilisation du terme revenge porn décentre, un peu...
Vous souhaiteriez que ça s'apparente en fait davantage à une forme de violence conjugale ou post-conjugale,
Il y a différents niveaux. Ouais. C'est un peu comme le crime passionnel. Ouais. Quand on parle de revenge porn, on ressent quelque chose un peu sur les sentiments de l'homme, un amoureux est conduit, ce genre de choses. Alors que quand les photos sont diffusées, il y a du recel et il y a des personnes qui ne connaissent la victime aucunement qui diffusent les photos et les propagent. Donc il y a vraiment une association.
Divina Fraumex.
Oui, bon, je trouve que c'est bien que la loi commence à réagir, parce que c'est vrai que pour le moment, la régulation par signalement hein, sert surtout d'alibi aux pourvoyeurs de services de continuer à faire du business. On est quand même d'abord aux origines de revenge porn dans un très gros business. Hein, celui qui a été arrêté et qui a dû arrêter Hunter Moore, là, qui avait le site aux États-Unis, et Zini One Up, il faisait 10 000 dollars mois en vue. Hein, donc, il y a une régulation qui est à faire, qui doit dépasser ce qui se passe par les réseaux sociaux. Alors, ce que dit Kessia, c'est vrai, c'est que c'est quand même proche du viol, parce que c'est souvent l'entourage qui fait ça. Et le problème d'Internet, par contre, c'est qu'on est devant des tiers.
Et puis, ça crée des dégâts, des dégâts psychiques chez les victimes qui sont effectivement assez proches de ce qu'on peut observer.
Ce qui est intéressant du côté de la loi américaine, hein, c'est que depuis une dizaine d'années, Daniel Solove et d'autres juristes essayent de créer une nouvelle dimension à la vie privée aux États-Unis, hein, qui est fondée justement sur les dégâts produits par les data, et notamment des dégâts justement qu'on ne peut pas voir. En parlant de dommages et intérêts, qui sont ce que ça fait en termes de stress, et de dommages.
Donc vous nous disiez, maître Delphine Meillet, ce que prévoit la loi, mais dans les faits aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez comme type de condamnation par rapport aux clientes qui viennent vous solliciter, qui sont de plus en plus nombreuses, vous nous le disiez, depuis quelques années.
Oui, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'un certain nombre de femmes se présentent. Alors il ne s'agit que des femmes qui sont victimes, en tout cas me concernant, de revenge porn. Donc, il se trouve que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces femmes n'ont pas pris nécessairement ces photos ou n'ont pas été prises en photo il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Oui. J'ai énormément de cas où les photos et les vidéos remontent à il y a des années, de nombreuses années, voire des dizaines d'années. Donc j'ai des femmes devant moi qui ont 40 ans.
Ce qui ne veut pas forcément dire que ça a été prémédité.
Ça veut dire qu'à l'origine, la photo a été prise ou la vidéo a été prise dans un cadre très consensuel. Mmh. Et des années plus tard, on ne sait pourquoi l'ex en question se réveille et diffuse la photo sur le Facebook de la femme en question ou sur des sites porno.
Et on peut rajouter que par la sérendipité, hein, par le hasard malheureux des réseaux sociaux et surtout des moteurs de recherche, ces images qu'on croit même avoir fait disparaître peuvent ressurgir. Hein, elles restent comme une épée de Damoclès. Hein. Et alors les conséquences de nos jours socialement, elles sont énormes. Pas simplement psychiquement, mais on a bien vu par rapport aux tiers, mais par rapport à retrouver un emploi, par rapport à retrouver une activité sociale. Hein. Ces personnes ont tendance à devenir des recluses. Hein. C'est typiquement les cas de la dépression.
Et que dire de la méfiance qui peut s'installer dans les relations hommes-femmes aussi? Tout simplement, hein, dans les relations de l'humanité.
Une expression, les Anglais ont utilisé une expression, be aware before you share. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer, et surtout concernant les nouvelles générations.
À traduire par faites attention avant de partager
une photo. Il faut absolument intégrer cette notion que quand vous envoyez une photo ou lorsque vous vous laissez prendre en photo, vous envoyez une bombe à retardement à celui qui détient cette photo. C'est une bombe à retardement, il peut l'utiliser ou pas.
Je voudrais lire juste le témoignage de Laurie qui a été postée de Brazzaville sur nos réseaux sociaux. Il y a 3 ans, nous dit Laurie, j'ai été filmée en plein ébat sexuel avec mon petit ami par un de ses copains. Aucun de nous deux n'était au courant. 1 an plus tard, j'ai été informée que cette vidéo avait été mise sur le net. Elle a largement circulé pendant des mois. Heureusement, j'en ai entendu parler qu'après, mais le choc était énorme. Nous avons décidé de porter plainte avec mon petit ami de l'époque. Le gars n'a eu qu'une semaine d'incarcération car on nous a dit qu'il n'était pas possible que nous ayons été filmés à notre insu. Une semaine, c'est très peu selon moi, mais ce fut la pire semaine de sa vie. À sa sortie, il nous a officiellement présenté ses excuses. Je prie toujours pour qu'aucun de mes proches ne tombe sur cette vidéo. Cette histoire a marqué ma vie et maintenant je suis extrêmement prudente. On va rendre l'antenne dans quelques instants pour le flash, mais bien sûr on se retrouve juste après dans un peu plus de 3 minutes. Divina Fraomegs, maître Delphine Meillet et Kessia, vous restez bien sûr avec nous dans le studio. Comment lutter contre le cyberharcèlement et plus particulièrement contre la vengeance porno, le revenge porn, comme disent les anglo-saxons? Faut-il durcir les lois d'ailleurs? Est-ce que les peines de prison sont de vraies solutions pour faire entendre un peu raison à ceux qui postent ces photos ou ces vidéos totalement dévastatrices pour les victimes, qui sont d'ailleurs dans les 2/3 des cas, voire plus souvent encore, des femmes? On va bien sûr en parler. On a aussi des messages de garçons hein, qui ont été victimes de ces techniques. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bien. bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous discutons aujourd'hui de cette terrible pratique, attaque sur Internet, ce qu'on appelle le revenge porn, c'est-à-dire les vengeances pornographiques, hein, pour traduire exactement l'expression anglo-saxonne. On a entendu un témoignage d'une victime qui est tout à fait dévastée par ce qui lui est arrivé, des images postées, et puis surtout, bien plus violent que les images elles-mêmes, bien sûr, hein, viennent des commentaires eux-mêmes extrêmement violent, voire raciste dans certains cas. Nous en discutons avec vous, Divina Fraumeg, sociologue des médias, maître Delphine Meillet, avocat au barreau de Paris et spécialiste en matière d'atteinte à la vie privée et droit de la presse. Et Kessia, vous êtes étudiant en droit, membre de ce tout jeune collectif féministe contre cyberharcèlement. Delphine Meillet, vous nous disiez en première partie d'émission que certes, a priori, on se dirige plutôt en France vers un durcissement des peines, hein, notamment des peines de prison, qui reste bien moins importante dans les faits, en tout cas pour ce qui est des condamnations, par rapport à ce qu'on peut trouver aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada. C'est ce que vous nous disiez, Divina Fraumeg, hein. Il y a des peines de plusieurs années de prison dans certains cas aux États-Unis.
Oui,
hein.
C'est parce que ça n'a pas du tout.
Y compris en Grande-Bretagne d'ailleurs.
Alors, il faut bien comprendre que ces phénomènes existent en partie, je pense, parce que les grands sites et les grandes plateformes sont de droit californien. Alors en Californie, ils viennent de passer une loi en 2013 qui est une loi en fait contre la cyber-exploitation, ce qui est quand même différent de ce dont on parle un petit peu, mais qui peut l'inclure, et qui va jusqu'aux selfies, donc qui anticipe un peu sur des pratiques à venir, sans doute, où les selfies seront aussi utilisées contre les gens eux-mêmes. C'est le New Jersey qui est le plus proche de nous, par une loi sur la vie privée. Donc une reconnaissance de la vie privée que un peu à l'européenne, qui devient de plus en plus d'ailleurs quelque chose dans ce type-là aux États-Unis, parce qu'on n'arrête pas de dire que les États-Unis sont contre la vie privée. Au niveau activisme, c'est énorme en ce moment, la prise de conscience,
hein, pour la protection
de
la vie privée
et de sa protection.
Si tant est aussi que souvent les textes sont précis quand il s'agit d'une atteinte à la vie privée dans l'espace privé, c'est-à-dire à l'intérieur d'une maison, d'un appartement, dès qu'on est évidemment dans la sphère publique, différent.
Et c'est parce que ça atteint des tiers. Alors aux États-Unis, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut demander comme dommages et intérêts, donc on va trouver des peines effectivement allant jusqu'à 18 ans, des amendes de $500,000, etc., etc. Alors chez nous, c'est beaucoup plus régulé. Hein. Mais on est dans une situation où là-bas, c'est la liberté d'expression qui primera toujours. Hein. Donc, par exemple, quand les gens sont arrêtés, ça ne va pas être pour atteinte à la vie privée, ça va être parce qu'ils ont fait une fraude à côté. Ils ont hacké, ils ont piraté un site, ou alors ils ont fait
une usurpation d'identité, notamment.
Voilà, ou des pratiques de travail illégales. C'est là où la Federal Trade Commission, par exemple, dont dépend Internet, peut intervenir. Donc, c'est pas du tout les mêmes modes d'intervention et de représentation, hein, de ce que c'est que ce délit. Et l'enjeu, maintenant, je pense, pour nous tous, c'est d'en faire un vrai délit.
Voilà, la difficulté de cette atteinte, c'est qu'il s'agit d'une violation du droit à la vie privée, mais également, on est aux confins de l'agression sexuelle. On est vraiment, c'est une nature un peu mixte de ces atteintes.
Pris dans le témoignage qu'on a entendu.
Et les clientes qui viennent me voir me font penser aux victimes de viol. Alors il se trouve que le viol numérique existe dans certaines législations, et notamment au Canada et en Israël, ils ont légiféré en ce sens, en parlant de viol numérique, et ils ont classé ces infractions dans les agressions sexuelles. Ce qui n'est pas notre cas en France.
Oui, c'est ce que vous souhaiteriez, évidemment. Je voudrais vous lire quelques messages postés sur les réseaux sociaux avant qu'on donne la parole à un auditeur. Kelly est à Dakar et nous dit « Le monde d'aujourd'hui est tellement complexe, il y a un énorme manque de maturité. Parfois, certains vont faire ce genre de choses pour faire parler d'eux et pour se faire de l'argent. David à Port-au-Prince, en Haïti, n'est pas d'accord. » Et répond, tout n'est pas question de maturité. Même si ta copine t'a largué, elle a quand même partagé ce qu'elle a de plus précieux avec toi. Du coup, il est hors de question de laisser des frustrations prendre le dessus, nous dit David. Il y a des trucs qui ne se font pas. Par exemple, se faire filmer en faisant l'amour avec son copain, c'est de l'irrespect envers l'autre et envers soi-même. Voilà, un sage commentaire. Aïssata Bamako rappelle la règle d'or est de ne jamais faire de photos ou vidéos intimes, quelle que soit la relation qu'on peut avoir avec l'autre. Si aujourd'hui, c'est le grand amour, demain on peut être les pires ennemis, et si un jour des photos ou vidéos privées arrivent sur Internet, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Kessia, vous souhaitez réagir? Vous appartenez à la génération du tout image.
Oui, voilà, on est une génération très visuelle, et ce sont des pratiques qui sont normalisées en fait, qui deviennent complètement normales. Et
c'est bientôt le problème.
Voilà. Ouais. Oui, enfin, pas, je ne parle pas de la diffusion,
non, bien
sans
sûr,
consentement, mais dans un couple, voilà. capturer des images ou des vidéos, ça devient de moins en moins marginal. Et donner ce genre de précautions de type refuser complètement, c'est encore responsabiliser les victimes, c'est quelque part dire...
Culpabiliser, si... vous voulez dire, même pratiquement. Alors beaucoup d'hommes, effectivement, estiment que les femmes victimes sont d'abord des coupables. Ça fait penser un peu, vous me direz si vous trouvez que c'est la même chose ou pas, à ces filles victimes de viol, elles s'habillent avec des jupes très courtes, elles l'ont bien cherché, c'est ce qu'on entend aussi. Est-ce que c'est finalement du même acabit ou pas, Divina Frao?
Oui. Je pense qu'on est dans un retour ou une régression par rapport au gain des femmes dans la vie réelle comme dans la vie cyber. Et je salue d'ailleurs les organisations qui sont en train d'émerger en ce moment sur les cyberdroits, parce que justement il y a une continuité et surtout il y a des retombées dans la vie réelle de ce qui se passe dans le cyber. Donc il faut absolument qu'on apprivoise maintenant ce qui se passe dans l'internet. Moi c'est pour ça que je milite pour une éducation aux médias qui prenne en compte la gouvernance d'internet, le droit à la vie privée, la portabilité de ces données, le fait de pouvoir les récupérer, la transparence de tout ce qui est lié à aux pourvoyeurs qui ont pour le moment la police des mœurs, c'est eux qui décident de ce qu'on enlève, ce qu'on laisse. Enfin bon, il y a vraiment tout un ensemble de droits à mettre en place là, et une sensibilisation à faire très tôt des jeunes, mais aussi des adultes, de ce qui se passe sur internet et des conséquences à long terme, de non pas de l'internet qui soit coupable, c'est ce nos pratiques à nous, ce sont nos usages, mais de bien comprendre à quel point ça a un rôle amplificateur et durable dans nos vies.
Oui, maître Billet. La déflagration est terrible dans la vie de ces femmes qui sont victimes de la diffusion de ces images sans leur consentement, à telle enseigne que sans même qu'il y ait de législation en question, les sites eux-mêmes, c'est-à-dire Google eux-mêmes, a mis en place un système, un formulaire pour déréférencer la vidéo en question, le droit à l'oubli, et un droit à l'oubli spécifique au revenge porn. Il y a deux types de formulaires.
Ce qui n'est pas le cas sur Twitter, alors.
Ce qui n'est pas le cas sur Twitter, mais Twitter est en train de ce que j'ai pu lire, commence à durcir.
Facebook, Instagram, Microsoft sont tous en train de s'aligner là-dessus.
Facebook également.
Ce qui se passe, l'enjeu, c'est que là, ce sont les plateformes qui décident elles-mêmes de s'auto-réguler. Et ça, je trouve que c'est vraiment problématique.
Vous voulez dire qu'elles occupent un vide juridique.
Elles occupent un vide juridique, mais aussi elles se posent comme juge et partie.
Oui, voilà. Elles se substituent.
Et ça, c'est pas normal.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 1 84 22 71 71. On le disait, la plupart des victimes de ces pratiques désastreuses de revenge porn sont des femmes, mais il y a aussi des garçons. David nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour David.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez la parole, David.
Ouais, j'ai été victime, ça fait 5 ans aujourd'hui, parce que étudiant. J'étais obligé de quitter la ville de Yaoundé. J'avais ma petite fille là-bas et pour rester en contact avec elle.
Ouais.
Et au hasard, on s'envoyait des photos, on se faisait des photos, des vidéos. Parfois, quand je suis en train de prendre mon bain ou elle prend le bain, je fais une vidéo, elle m'envoie et tout. Moi, je supprimais tout ce qu'elle m'envoyait après avoir visionné, je supprimais, mais elle les gardait pour moi.
Oui.
Et elle avait appris que je sortais avec une autre fille. Et moi, je disais que c'est faux et tout ce qu'on se raconte sur moi, c'est faux. Ma chienne, elle avait dit, bon, je vais te pourrir la vie.
Attendez, votre petite amie, donc, si on a bien compris, parce que la ligne téléphonique n'est pas excellente, votre petite amie a cru que vous aviez été infidèle. Et comme l'amour à distance, évidemment, est parfois mis à rude épreuve, vous ne viviez plus dans la même ville, elle a voulu se venger, c'est bien cela.
Voilà. Donc, un ami à moi m'appelle.
Oui.
Il me dit, David, tu t'es connecté sur WhatsApp depuis le matin. Il dit, non, il me dit, connecte-toi. Quand je me connecte, je vois des photos de moi vraiment terribles.
Terrible, c'est-à-dire.
Ces photos
explicites.
Ces photos de moi nue sur WhatsApp.
Sur l'application souvent. WhatsApp, ouais.
Oui, les photos que je l'envoyais souvent. Et elle a publié ça sur tout mon WhatsApp, tout mon groupe d'amis. Et le problème, c'est que je suis sur WhatsApp avec mes parents.
Oui, ben oui.
Ils ont vu les photos et tout, c'était la honte totale. Mon père m'a traité de tout. Ma mère, c'était terrible. J'ai eu honte, juste été obligé de me supprimer de WhatsApp. Puisqu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jamais utiliser WhatsApp. Et pour arranger, je me suis assuré qu'elle a effacé toutes les photos parce que je suis remonté sur Yaoundé, je l'ai fait appel, on s'est vu, j'ai pris son téléphone, j'ai cassé pour effacer toutes les photos-là parce que j'avais peur que peut-être après, elle pouvait envoyer ça même sur Facebook.
Ouais. Et ça a conduit à la rupture avec votre petite amie, j'imagine.
Oui, directement, directement.
Oui, on sent que vous êtes encore ému, même quelques années après. C'était il y a déjà pas mal de temps, non?
Oui, c'était pas mal. Ça fait 5 ans, mais...
5 ans.
Ça a créé en moi un traumatisme, ce qui m'a amené maintenant à prendre les réseaux sociaux avec des pincettes. Je suis le plus fort.
Ouais.
Justement sur Facebook et Skype.
Ouais.
Facebook, c'est de temps en temps. Je ne suis pas tout le temps.
Ouais, du fait de la réaction de votre entourage. Merci beaucoup de nous avoir appelé, David. Je voudrais aussi lire le message d'un internaute. Ça arrive aussi aux garçons. Message d'un internaute qui nous écrit de Dakar. Je suis victime de revenge porn. Il y a une semaine, un de mes amis m'a appelé pour me dire que je suis sur un site pornographique. Ce qui me fracasse dans toute cette histoire, nous explique cet internaute, c'est que dans ma tradition, il m'est formellement interdit de voir les parties intimes de la femme. Un malheur risque de me tomber dessus. Alors comment mettre fin à ces images et vidéos qui me mettent en conflit avec ma tradition. Voilà. On sent bien que il y a le regard de l'entourage. Hein, on est tous des êtres sociaux et que c'est ce qu'il y a de plus dévastateur, hein, Maître Meillet.
Oui, la difficulté dans cette question, c'est la réparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en amont anticiper ce qui va se passer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous envoyez une photo, c'est une bombe à retardement. Vous ne maîtrisez plus rien. Donc on ne peut que réparer. Alors il y a des situations extrêmement graves et je pense, on n'est pas dans le domaine pornographique, mais je pense aux images dans l'affaire de Mohamed Merah qui avait filmé à l'époque le meurtre des petits-enfants dans cette école juive. Il se trouve que ces images allaient être diffusées sur Al Jazeera et on a pu obtenir, récupérer ces images, les originaux, et que ces images ne soient jamais diffusées. Donc là, on est dans un cas très particulier. Mais dans le cas qui nous intéresse, il n'est pas possible d'anticiper ce qui va se passer et vous ne maîtrisez plus l'image.
Divina Frao, rapidement, on sera ensuite en ligne avec un autre invité.
Je pense qu'on doit tendre vers cette maîtrise de l'image, d'abord par auto-éducation, mais moi ce qui m'inquiète là, c'est que ça mène à la censure. Or, en termes d'éducation aux médias, et je pense en termes d'expression, c'est terrible, parce que c'est exactement ce que ne veulent pas les gens qui sont pour la liberté d'expression. Donc, une des recommandations que nous faisons, et je crois que les sites de cyberharcèlement le font aussi, c'est de ne pas se retirer. Il ne faut pas arrêter ces comptes. Au contraire, il faut repositiver tous ces comptes.
Parce que c'est la double peine,
écraser...
d'une certaine façon.
Oui,
hein.
Exactement. Comme d'habitude, oui, avec le porno et de manière générale, c'est la double peine. Donc, il faut au contraire continuer à alimenter ces comptes en affichant des images extrêmement positives pour que ces images-là arrivent en premier dans les moteurs de recherche. Et c'est là où l'éducation média est indispensable. Si on sait ça, on ne coupe pas ses comptes. On continue à alimenter et on nie tout cela. On met des images positives, on fait contribuer ses amis en sens inverse. Tout ça, on peut l'inverser si on s'organise de la même façon.
Oui, c'est très
moi,
juste.
Moi, je suis vraiment pour qu'on aille dans ce sens-là.
Ça, c'est
et je
un
suis pour qu'on responsabilise. Qu'on responsabilise les pourvoyeurs de services. Pas simplement dans ce sens-là. Parce que ce qui est arrivé, là, la viralité, c'est parce que tout d'un coup, Snapchat ou WhatsApp ouvrent à Twitter, à Instagram, et ils utilisent comme ça leur interviralité. Et ça, c'est un rôle d'amplificateur qu'on peut contrôler.
Une des méthodes pour se sortir de cette situation, c'est de créer du contenu.
Absolument.
Ce que vous venez de dire, c'est de créer du contenu positif sur vous, associé à votre nom, associé à votre image, et comme ça vous faites descendre sur Google.
Mais c'est intéressant comme recommandation.
Les vidéos litigieuses.
Message posté de Mara Mori qui est à Évry en région parisienne. Le revers du net, évidemment, les vidéos et photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux peuvent être téléchargées, gardées sur l'ordinateur de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'histoire. Nous sommes en ligne avec Jérémy Mani qui est au téléphone avec nous, qui gère une entreprise française de modération des espaces participatifs sur Internet. Bonjour Jérémy Mani.
Bonjour à tous et à toutes.
Votre entreprise s'appelle Netino, a évidemment parmi ses clients des médias, évidemment des sites qui sont extrêmement fréquentés. Qu'est-ce que vous constatez lors de ces modérations sur les discussions, sur les forums de vos clients?
Alors, c'est vrai, ça a été dit que c'est un phénomène qui n'est pas récent. La première fois qu'on a été confronté à ça de notre côté, c'était sur des sites de rencontres où certains individus étaient dans une logique de webcam avec d'autres personnes, se filmaient plus ou moins en train de se déshabiller et puis étaient ensuite victimes de chantage pour pas que ces vidéos qui avaient été enregistrées puissent paraître sur Internet. Avec les réseaux sociaux, donc plus récemment on va dire, tout ceci s'est démontré démultiplié, mais ça existait et ça existe encore sur les forums. Et on voit notamment les forums pour jeunes adultes ou pour adolescents, où sans même parler de photos ou de vidéos, on a aussi, nous, beaucoup à bloquer de numéros de téléphone. C'est-à-dire concrètement un jeune homme qui dit je vous donne le numéro de téléphone de tel prénom, elle a les mœurs légères, allez-y, appelez-la de ma part. Et bien sûr cette jeune femme reçoit dans les minutes qui suivent des dizaines ou des centaines de SMS ou de messages qui la suivent jusque dans sa chambre. Donc c'est extrêmement dommageable,
avec les risques pour sa sécurité que ça comporte, évidemment,
en plus tout à fait, et sa santé mentale.
Oui.
Vous avez une décision de justice qui a été rendue il y a quelques mois en France, et c'est celle qui a fait jurisprudence, où vous avez un ex-concubin qui a été condamné pour avoir diffusé des informations relatives à son ex-compagne. Il avait donné ses coordonnées et il se trouve que des individus ont frappé à la porte de cette femme, et cela à plusieurs reprises. Il a fait ça deux fois de suite et il a été condamné deux fois de suite, et la dernière condamnation est extrêmement lourde. Il est actuellement incarcéré.
C'est il a été condamné à plusieurs années de prison.
C'est important d'avoir conscience que les conséquences du cyberharcèlement sont réelles. Souvent, les victimes sont confrontées à des discours tels que c'est virtuel, voilà, c'est sur Internet, c'est pas la réalité. Sauf que il y a des dangers pour sa sûreté, pour sa santé mentale, pour la poursuite de ses études, pour sa vie professionnelle, pour sa vie sociale. Il y a de réelles conséquences.
Oui, puisque dans presque tous les cas, en fait, la victime est tout à fait identifiée. C'est pas seulement l'image qui circule, c'est son identité qui circule aussi.
C'est ce que je disais, c'est l'identité. Ouais. Là, par rapport à la victime, on le disait tout à l'heure, la victime est assez démunie et on peut pas demander à quelqu'un en dépression d'aller vers des contenus positifs. C'est là où on a besoin de créer des moyens de soutien, où on peut aider ces personnes à se reconstruire, mais aussi se reconstruire en ligne. Hein, leur présence en ligne, moi je ne parle pas d'identité, parce que l'identité c'est encore autre chose. Exactement. Mais la présence en ligne, ça peut se modérer, ça peut s'amplifier, ça peut s'inverser. Et c'est là qu'il faut qu'on tende.
Ouais. Jérémy Mani, vous en tant que professionnel de la modération, est-ce qu'il n'y a pas un problème de timing entre ce que la modération humaine, voire mécanique, peut faire et l'extrême rapidité due à la viralité aujourd'hui de l'Internet? Quelles sont vos difficultés au quotidien pour vous?
En effet, la première chose à avoir en tête, c'est la réactivité, elle est indispensable. C'est d'ailleurs pour ça que certains grands médias ou certaines grandes marques externalisent ce métier-là, pour pouvoir le faire dans les quelques minutes, et aussi parce qu'on sait très bien que sur Twitter ou sur Facebook, ça ne sera probablement pas fait, ou si c'est fait, ça sera avec un décalage de temps qui fait que le mal aura été fait depuis belle lurette. Donc la réactivité, elle est essentielle. Ce qui compte aussi, alors il y a tout un tas de logiciels qui aident à prédétecter des numéros de téléphone, à prioriser des traitements de photos. On peut même, dans certains cas, reconnaître le corps humain, une poitrine, des fesses, par exemple, sur une photo.
La technologie permet aujourd'hui, en fait, que ces modérations soient extrêmement rapides, quasiment en temps réel.
Cela aide énormément. Probablement qu'il faut toujours un modérateur humain derrière, mais en tout cas, modérateur humain qui est confronté à des milliers de contributions toutes les heures, voire plus, il faut qu'il puisse aller à l'essentiel au plus vite possible sur ce qui est le plus risqué. À la limite, certains messages peuvent attendre, d'autres beaucoup moins. Donc ça joue beaucoup, et il faut pas trop compter sur Facebook et Twitter, même si leur purbonderie américaine fait que, heureusement, ce type de propos ou de contribution est enlevé plus rapidement que d'autres propos ou d'autres contributions violentes. Ça ne suffit pas. Le mal est fait, ça a été très bien dit tout à l'heure.
C'est tout le paradoxe de la société américaine, effectivement.
Mais si je peux dire un mot, parce qu'on compte effectivement un peu trop sur l'autorégulation des réseaux sociaux.
Et la responsabilité sociale des multinationales qui, effectivement, va finir par émerger réellement à la demande des consommateurs.
Probablement, en effet. Et puis, je crois, et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, et je vous remercie, c'est qu'il faut en parler et il faut médiatiser ces condamnations. Parce que beaucoup de gamins, parce que souvent des gamins ou des jeunes adultes qui
jouent avec ça.
Exactement. Et si,
donc on l'a bien dit depuis le début de l'émission, là c'est passible du pénal, hein, on est bien d'accord.
Mais il faut que ça se sache, c'est surtout que beaucoup de gens ne le savent pas. Ils le découvrent après, regrettent éventuellement, mais le mal est fait. Donc il faut que ça soit fait pour...
Maître Meillet.
Oui, on espère que l'amendement qui est en ce moment en voie de discussion à l'Assemblée nationale va faire l'objet d'une grande diffusion afin d'éduquer, parce qu'effectivement...
Un amendement donc spécifique ciblant le revenge porn.
Créant une infraction autonome relative à cette problématique. pratique du revenge porn.
Ouais, oui. De la revanche porno. Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Stéphane, vous nous appelez de Genève. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui, alors voilà, alors, je suis tout à fait d'accord avec votre précédent interlocuteur sur le fait qu'il faut éduquer et sensibiliser. Et ça, c'est une tâche que j'accomplis des fois en milieu scolaire, où on peut dénoter qu'il y a une vraie distance par rapport à la portée psychologique d'une image, où justement il y a une incompréhension de la part des jeunes générations sur l'impact psychologique d'un contenu intime dès qu'il est diffusé. Maintenant, par rapport aux diffuseurs et aux gens qui vont relayer ces informations, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de filles. C'est-à-dire que énormément de filles vont être dans les personnes qui vont s'en prendre à la victime. Alors, elles vont s'en prendre verbalement, elles vont s'en prendre de différentes manières, mais elles font vraiment partie de la masse critique des responsables de la diffusion et du harcèlement suite à ce type de contenu. Donc là aussi, il y a une éducation à faire à ce niveau-là sur aussi l'égalité des genres, donc tout ce qui touche à discrimination, toute cette on va dire inertie d'éducation sur le rôle de l'homme ou de la femme au niveau sexuel, où il faut établir des choses, et c'est pas forcément fait en milieu scolaire aujourd'hui.
Alors la parole est aux invités dans le studio. Merci beaucoup Stéphane d'avoir souligné cela. Oui. Nessia, vous êtes pas d'accord
Donc on peut dire que les commentaires très virulents d'autres jeunes filles, ça relève de la misogynie internalisée, mais c'est aussi un mécanisme
de
protection.
Oui, mais c'est une
réalité
aussi.
Oui, voilà, c'est une réalité, mais c'est un mécanisme de protection pour dire je ne suis pas comme elle, je suis une fille vertueuse contrairement à elle, et ça permet de se mettre à l'abri de ce genre d'agression. Mais il faut adresser cela, puisque ça banalise et ça donne le sentiment que certaines personnes méritent ce traitement. Qu'une atteinte au droit du respect de sa vie privée peut être normale ou peut être justifiée.
Vous nous disiez tout à l'heure, il nous reste quelques minutes avant de rendre l'antenne, mais vous nous disiez tout à l'heure, Nessia, mais nous, on vit, bon, vous êtes étudiante en droit, on vit dans cette génération de l'image, de l'instantané, les images sont partout dans notre vie quotidienne.
Exactement.
Donc c'est normal dans une relation intime avec son petit copain de se faire photographier.
Ça peut arriver, oui.
Voilà, de manière assez dénudée. Divina Frao, vous avez plutôt tendance à dire aux jeunes dans le cadre de l'éducation aux médias, non, stop, à la porte de l'intimité, les téléphones mobiles, les appareils, enfin le fait de se prendre en photo, l'image ne doit plus exister.
Alors, non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça parce que moi je suis au contraire quelqu'un d'image et de texte et de son. Hein.
Non, mais on a tendance à recommander aux jeunes stop à l'image.
Non, moi ma tendance c'est créer votre propre présence en ligne et contrôlez-la, maîtrisez-la. Et moi ce que je veux donner ce sont les outils de la maîtrise. Alors après, les outils de la maîtrise, ça peut être protester contre les réseaux sociaux, ça peut être demander des lois, ça peut être discuter avec des adultes, ça peut être aller voir des associations de protection. Il n'y a pas une solution. Ce qu'il faut, c'est connaître le répertoire des pratiques et des solutions. Et ça, c'est la maîtrise. C'est savoir quand j'ai une urgence, où je m'adresse, quand j'ai une réclamation, où je m'adresse, etc., etc. Bon, et là, le monsieur a fait une confusion, me semble-t-il, entre la vengeance pornographique et le ragot. Les filles pratiquent le ragot.
Oui, voilà.
Des sites comme Gossip, Yapyak, etc., etc.
Oui, mais sur le revenge porn, il y a énormément de commentaires de filles extrêmement violents.
La pornographie, parce qu'elles sont souvent l'objet de la pornographie. Donc, je crois que là, il y a de la recherche à faire. C'est le côté Sorbonne Nouvelle qui parle. Il y a de la recherche à faire parce qu'on parle en ce moment que sur des sondages faits par les Américains. Donc, en France, on n'en fait pas assez. Ça n'intéresse pas. Ça ne mobilise pas les médias parce qu'en France, il y a un tabou sur le porno qui nous vient d'un héritage stadien.
Alors là, effectivement, on remonte au 18e siècle. Qu'est-ce qu'il y a, vous, concrètement, avec ce collectif qui vient de se créer il y a 3 semaines, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public, aux multinationales de la toile, en quelques mots?
De mettre en place, d'appliquer les dispositifs déjà existants. C'est sûr qu'il y a des avancées législatives à faire, mais en théorie, la protection, son image est protégée en France. Twitter aussi normalement prévoit des formulaires de réclamation ou de signalement.
Ouais. Voilà, procédure assez longue.
Voilà, ce qu'on souhaite, c'est l'application des dispositifs déjà existants.
Maître Meillet. Peut-être les derniers conseils.
Oui, les derniers conseils.
Toutes celles qui se disent ici, ça me tombe dessus.
Alors, surtout être proactif, c'est-à-dire surtout pas passive ou passif. Enfin, surtout passif, puisque 90% des victimes sont des femmes. Actif, c'est-à-dire créer du contenu positif, adresser des signalements aux sites en question, rédiger des mises en demeure, aller au commissariat porter plainte, éventuellement consulter un avocat pour engager une procédure en matière de référé. Il y a des choses à faire qui sont totalement effectives et il faut absolument les mettre en œuvre.
C'est un peu beaucoup demandé à des victimes qui viennent d'être complètement secouées.
En tout cas, après la libération sexuelle des années 70, les années SIDA aujourd'hui, est-ce que c'est l'avènement des années revenge porn
pour une nouvelle
relation de méfiance entre les hommes et les femmes pour le début d'une histoire d'amour? C'est pas simple.
C'est la genèse, on est à la genèse de ce genre de problématique. Et les dossiers commencent à arriver.
Paranoïa à tous les étages ou pas alors?
Pas du tout, on est devant un désarroi, mais on est devant aussi une nouvelle ère où on doit refaire de l'éducation. Je pense que les féministes doivent se remobiliser, ont pensé certains droits, certains gains acquis. À chaque nouveau média, l'histoire nous montre que le porno augmente et le féminisme baisse.
Merci en tout cas à toutes les trois. Divina Frao, Megs, vous êtes sociologue des médias. Vous avez publié d'ailleurs Socialisation des jeunes et éducation aux médias chez RS. Maître Delphine Meillet, avocat au barreau de Paris. Et Kessia, 21 ans, étudiante en droit, membre du collectif Féministe contre cyberharcèlement. Le hashtag, c'est très simple, c'est Féminisme versus Cyberbully. Tout est noté sur notre page. Ne vous inquiétez pas, évidemment. RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Cécile Lavolo, Camille Néran, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. C'est toute l'équipe qui est derrière moi tous les jours derrière ce micro. Et demain, 7 milliards de voisins rebelles et révoltés. Qui sont ces adolescentes derrière les barreaux ou dans les centres éducatifs fermés? On en parle demain à la même heure, au même endroit sur RFI.